Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Yeah, ok, come on.
Bonjour. À Tbilissi, le Parlement géorgien a commencé l'examen du très controversé projet de loi sur les agents de l'étranger. Le texte prévoit que les organisations de la société civile, dont plus de 20% des financements viennent de l'étranger, doivent se déclarer aux autorités en tant que poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Après les manifestations de l'opposition ces derniers jours, lundi soir, c'est le parti du rêve géorgien au pouvoir qui a organisé un rassemblement pour défendre la loi au nom, je cite, de la défense contre l'argent sale, les attaques contre l'Église, la propagande LGBT ou encore la drogue, donnant ainsi l'image d'une société clivée, une image qui ne correspond pas vraiment à la réalité du pays, nous explique Tornike Goradze. Il est ancien ministre de Géorgie, aujourd'hui professeur à Sciences Po et chercheur à l'Institut Jacques Delors.
Je pense que ce clivage idéologique n'est pas équilibré parce que d'un côté vous avez l'immense majorité de la population qui est pro-européenne et vous avez un gouvernement qui est dominé par une personnalité trouble, un milliardaire qui s'est enrichi en Russie dans les années 90, qui jusqu'à là avançait masqué, ne disait pas ouvertement qu'il était opposé à l'intégration européenne. Cet homme qui n'a aucune fonction, je rappelle, officielle au gouvernement et qui gouverne à partir de l'ombre, il a déclaré que tous les problèmes de la Géorgie depuis au moins 20 ans étaient imputés aux agents de l'étranger, notamment aux agents occidentaux. Alors le public qui était présent, c'était des fonctionnaires. Ces gens-là subissent des pressions. Beaucoup d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils étaient là, parce qu'il y avait quelques journalistes indépendants qui posaient des questions dans la foule. Mais c'était une démonstration de force de la part du gouvernement pour dire que, oui, bien, peut-être que ces manifestations de l'opposition étaient impressionnantes, mais nous aussi, on peut mobiliser le peuple géorgien, le vrai peuple géorgien. Il n'y a pas un seul drapeau européen parmi ces manifestants, alors que toutes les manifestations jusqu'à maintenant en Géorgie se déroulent avec les drapeaux géorgiens et européens ensemble.
Le gouvernement s'était félicité pourtant de l'octroi en décembre du statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Bruxelles a dit clairement que cette loi mettait le processus en danger. Pourquoi est-ce que les autorités se tirent une balle dans le pied? Elles veulent tourner le dos à l'UE, vraiment définitivement?
C'est parce que le gouvernement géorgien voulait le statut sans vouloir l'Europe. Il voulait avoir le statut par maintenir l'ambiguïté auprès de l'électorat. Je rappelle que 80% de la population géorgienne, y compris une partie de leurs électeurs, est pro-européenne. Donc, déclarer directement l'alliance ou l'allégeance à la Russie et brutalement rompre avec l'Union européenne, c'est quelque chose qui est très risqué de la part du gouvernement. Donc ils ont obtenu le statut qu'ils ont utilisé à leur profit, mais en réalité ils ont poursuivi leur politique autoritaire. La Russie exige également de la part du gouvernement géorgien des actes concrets pour saboter la candidature géorgienne à l'Union européenne. Et à la veille des élections législatives qui ont lieu cet automne en Géorgie, ce gouvernement veut rendre ces élections sans intérêt parce que s'ils appliquent cette loi, il n'y aura plus aucune chance pour que ces élections se déroulent dans les conditions démocratiques.
Est-ce que selon vous, le risque est important d'une évolution similaire en Géorgie à celle de l'Ukraine de 2014?
Oui, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario ukrainien qui est possible, parce que Yanukovych, président, qui également pendant des années entretenait l'ambiguïté par rapport aux négociations avec l'Union européenne sur l'accord d'association et qui au moment décisif a tourné le dos à l'Union européenne et qui s'est récolté la révolution de Maïdan et ensuite l'intervention militaire russe. Il y a aussi le scénario biélorusse qui est encore plus sombre, c'est-à-dire lorsqu'en 2020, le dictateur Loukachenko a encore une fois falsifié les élections. Il y a eu des centaines de milliers de Biélorusses qui s'étaient mobilisés et Loukachenko a écrasé ces manifestations avec l'aide apportée par Vladimir Poutine et Loukachenko est devenu totalement, entièrement, à 100% contrôlé par le régime russe. Donc il y a ces deux scénarios possibles. Le meilleur scénario, ça serait un engagement clair et massif de l'Union européenne en faveur de la société géorgienne. vous trouverez pas un pays dans la région qui est aussi pro-européen que la Géorgie. Donc les leaders européens doivent se rendre en Géorgie pour montrer leur solidarité avec ces forces vives du pays qui manifestent maintenant depuis 2 semaines.
Tornike Goradze, ancien ministre de Géorgie, professeur à Sciences Po et chercheur à l'Institut Jacques Delors. Yo. La 2024 est une année électorale chargée en Roumanie avec pour commencer en juin les municipales et bien sûr les européennes. Et la campagne est bien entamée. Dans ce pays qui vient de rejoindre partiellement l'espace Schengen, l'extrême droite monte, comme chez de nombreux voisins. Le parti AOUR, qui a obtenu 9% des voix aux dernières législatives, pourrait arriver en tête aux européennes. Il mise sur la frustration et le ressentiment d'une partie de la population sur fond d'inquiétude et de désinformation. Reportage dans le sud des Carpates, Benjamin Ribaud.
Scène cocasse ce matin sur le stand AOUR dans le centre de Kampoulou-Mouschel. Un sympathisant plutôt âgé, Yon Bika, vient apporter sa signature au parti nationaliste et s'en prend à une mendiante assise à côté. C'est à cause de vous, les mendiants, que nous ne sommes pas rentrés dans Schengen. Vous faites honte à notre pays aux quatre coins de l'Europe, lui lance-t-il. Sans l'Europe, on ne survivrait pas, lui rétorque du tac au tac la femme. Yon Bika s'assoit dans la foulée pour partager ses idées avec les militants à AOUR.
Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on remette les choses à l'endroit dans ce pays. Et ce n'est pas avec nos dirigeants actuels qu'on y arrivera. Qu'on en finisse avec le monde interlope, la paperasse dans les institutions, dans les mairies et avec les drogues aussi.
Le parti AOUR capitalise sur le mécontentement et la frustration des électeurs. À ses débuts, il a surtout profité du mouvement anti-vaccin durant la pandémie. Viorel Kojocha, la cinquantaine, fait partie de l'organisation locale du parti. Il se décrit comme activiste civique.
Lors d'un événement avec des chansons traditionnelles ici en ville, les autorités m'ont carrément refusé l'accès au concert parce que je n'étais pas vacciné. En d'autres termes, ils ont porté atteinte à mes droits et à mes libertés de citoyen, pourtant prévues dans la Constitution. Nos traditions et notre folklore sont la base de notre identité nationale. Je suis un nationaliste convaincu. Pour moi, les principes de base de AOUR sont des valeurs qu'il faut à tout prix respecter et même défendre au prix de sa vie, la famille, la foi, la liberté et la nation. C'est avec ça qu'on peut renaître de nos propres cendres tel l'oiseau phénix. Autrement, la Roumanie va disparaître.
Anti-système, le parti ne se déclare pourtant pas anti-européen. Sur le stand, on fustige surtout la corruption des élites actuelles. George Simeon, leader de AOUR sur le plan national, serait différent. Lui qui s'est fait connaître en tant que militant du rapprochement de la République de Moldavie avec la Roumanie, il est aujourd'hui aussi connu pour être proche de la Russie et de Donald Trump. Monsieur Florescu, 67 ans, fonde beaucoup d'espoir en lui.
Ça fait 4 ans que je m'implique pour le parti. Depuis que j'ai rencontré monsieur Georges, lui, il se bat vraiment pour nous. Il est tellement impliqué, mon Dieu. Il ira jusqu'au bout. Si seulement il pouvait mettre la main sur le pouvoir. Ce pays a besoin de davantage de discipline. On envoie à l'étranger notre blé et on se retrouve à importer du pain fabriqué en Grèce et je ne sais où. C'est aberrant. On doit vraiment développer nos petites et moyennes entreprises. Comme du temps de Ceausescu. C'est comme ça que font les pays qui s'en sortent.
Le représentant local à AOUR passe sur le stand voir ses troupes. Andrei Dobrescu est avocat en ville et il est passé par d'autres partis avant de militer chez AOUR. Pour lui, l'Europe doit servir une cause conservatrice, la sienne.
J'ai choisi AOUR car c'est un nouveau parti dirigé par des jeunes. Et je pense aussi que c'est un parti transparent. Si on parvient à obtenir des sièges aux élections locales, notre première proposition sera la création d'un bureau travaillant exclusivement à tirer des fonds européens. En tant qu'orthodoxe, pour le peuple roumain, la famille est extrêmement importante. Et chez AOUR, on soutient le modèle de la famille traditionnelle. Autre aspect de notre programme, mieux analyser à qui on attribue des aides sociales. Que ceux qui ne les méritent pas, car ils sont aptes à travailler et ne le font pas, n'en reçoivent plus.
Aspect central du programme local du parti, parvenir à retenir les jeunes qui, à 18 ans, quittent tous la ville. On ne trouve d'ailleurs aucun jeune sur le stand du parti. Et comme si AOUR rêvait de donner encore plus de stature à leur pays, la Roumanie, ils militent pour la réunification avec la République de Moldavie voisine, peuplée majoritairement de roumanophones. Oh, I will. Oh, I will.
Les Britanniques s'apprêtent cette année à renouveler leur parlement et donc leur gouvernement. Ce sera, selon toute vraisemblance, après l'été. Et l'opposition travailliste est solidement installée en tête des sondages. Conscient malgré tout d'avoir une image encore fragile sur certains sujets, dont l'économie, le Labour peaufine son programme. Rachel Reeves, qui deviendra ministre des Finances si la gauche est élue, a inventé un mot, à défaut d'avoir inventé un concept, les « Securonomics ». Marie Billon, correspondante à Londres, va décrypter ce mot pour nous. Marie, « Securonomics », ça se traduit comment ?
Alors, c'est évidemment donc un mot valise composé de « security » et « economics », »,« sécurité » et « économie ». C'est une manière de dire que dans un monde de plus en plus dangereux, notamment parce que très interconnecté, et dans un pays où l'économie est justement très sujette aux aléas internationaux, on pense au prix du gaz et de l'électricité avec la guerre en Ukraine par exemple, le Royaume-Uni va devoir recalibrer sa politique extérieure et intérieure pour s'adapter. Frédéric Harry Pitts est maître de conférence en politique à l'université d'Exeter.
En Cornouailles, là où je vis et travaille, tout à l'ouest du Royaume-Uni, nous avons de larges ressources en lithium et en étain, des matériaux cruciaux pour la transition écologique et pour l'électrification. Or, pour l'instant, le pays dépend des chaînes d'approvisionnement internationales sujettes aux aléas politiques et le Labour veut développer des moyens nationaux pour la production de ces matériaux et de ces sources d'énergie pour le futur.
Et en même temps que cela renforce la souveraineté et l'indépendance économique et énergétique du Royaume-Uni, cela peut aussi avoir des effets bénéfiques sur le marché du travail. Exploiter les ressources nationales, c'est créer des emplois directs et indirects. C'est bon pour la sécurité des ménages des Britanniques.
Le maître mot, c'est donc sécurité.
Oui, mais justement, certains se demandent si ce n'est pas juste une nouvelle manière de dire protectionnisme. Frédéric Harry-Pitts, à nouveau.
Oui, c'est le danger, l'ambivalence du concept de sécurité en politique. Mais la manière dont il est utilisé ici ne signifie pas un repli sur soi. Il s'agit de faire du commerce et d'être ouvert au monde à travers un cercle d'alliés et partenaires auxquels on peut faire confiance au lieu de laisser le Royaume-Uni à la merci des risques géopolitiques. Politique inévitable quand on a des relations commerciales avec des pays qui ne partagent pas nos valeurs.
C'est une manière, dit l'universitaire, de reprendre le contrôle. Take back control. Cette phrase qu'on a si souvent entendue avec le Brexit, la sortie de l'Union européenne, faire des choix en conscience sans que cela soit au détriment de l'économie nationale. Au contraire même, c'est pour ça que le Labour en fait un argument électoral, c'est pour le bien de tous.
Tout cela rappelle fort un autre mot valise tout de même, les Bidenomics des États-Unis.
Oui, tout à fait. Des investissements réfléchis, des décisions sous-pesées avec les Américains ou les Britanniques, en l'occurrence, au centre des préoccupations. C'est pour ça que ça reste de la politique, même si Securonomics, ce n'est pas un mot que les militants travaillistes vont utiliser quand ils iront frapper aux portes pendant la campagne. Ça reste un peu trop flou et conceptuel. Mais c'est utile d'avoir une base intellectuelle solide, dit Frédéric Harry-Pitts, surtout pour la gauche qui doit éternellement prouver ses compétences en matière de finances publiques. La grande différence entre Securonomics et Bidenomics, ce sont les moyens, outre les diagnostics de ce qui ne va pas dans le pays, qui varient bien sûr, et varient même de région en région au sein même de chaque nation. Les États-Unis ont la capacité d'investir des milliards, le Royaume-Uni ne l'a pas, parce que son économie est plus petite et parce qu'elle a conservé une base industrielle plus restreinte que les Américains. Bref, un copier-coller ne marcherait pas. Rachel Reeves, chargée des questions économiques et financières au Labour, a donné plusieurs conférences pour exposer en détail ses idées et leur base. C'est justement qu'il faut adapter le concept au contexte intérieur pour dessiner les politiques nationales et internationales.
Marie Billon, correspondante à Londres, à bientôt. La Belgique fête un anniversaire très emblématique cette année. Le Fuse a 30 ans. Le Fuse, c'est la boîte de nuit techno de Bruxelles. Elle a vu passer Daft Punk, Carl Cox, un lieu connu et reconnu dans toute l'Europe, situé en plein centre-ville et dont l'histoire a aussi été marquée par quelques soubresauts, comme une fermeture partielle l'an dernier suite aux plaintes d'un voisin. Depuis, le Fuse a rouvert et les pouvoirs publics semblent prêts à protéger la vie culturelle nocturne de la capitale belge. Reportage Jean-Jacques Herry.
Le Fuse, since 1994, depuis 1994. Une date inscrite en blanc sur le portail noir. Un premier battant a poussé, un sas au mur sombre, une deuxième porte. Et ça y est, on pénètre dans le temple de la scène techno belge.
Depuis qu'on est jeune, on entend parler du Fuse, les soirées vraiment exceptionnelles.
On passe le week-end à Bruxelles, on était obligé de faire le Fuse. C'est génial, il est encore tôt, là il est 1h du matin, je pense que ça va seulement s'ambiancer, la musique va être de plus en mieux.
Entre les murs de briques de l'ancien cinéma, au milieu des jeux de lumière et des machines à fumer, l'histoire du club épouse les histoires personnelles.
Ouais, j'ai parlé du Fuse à mon parrain il y a 50 ans et il venait il y a 30 ans. Et pour lui, c'est un lieu mythique. Et c'est assez rigolo qu'une génération en dessous, on vienne toujours au même endroit. Quoi. On sait qu'il va y avoir du bon son, la bonne musique. Peut-être qu'un jour, nos enfants viendront, on ne sait pas.
Pour les professionnels de la nuit, se produire et mixer au Fuse est un honneur. Le Belge Hidden Shades est l'un des artistes résidents des lieux, régulièrement derrière les platines.
J'étais très fier quand ils m'ont demandé d'être DJ résident parce que c'est un lieu emblématique en Belgique, l'un des clubs les plus anciens de Belgique, mais aussi d'Europe. C'est toujours amusant de jouer ici, tout est très pro, il y a toujours un bon public à Bruxelles. Je suis très heureux d'être résident ici. Ça a été très important le Fuse, surtout au début quand la techno a émergé et la scène house avec elle. C'était l'un des premiers clubs à faire venir les grands DJ américains ou autres. C'était un bon début pour les fans de techno qui vivaient ici. Ils pouvaient venir au Fuse et écouter cette nouvelle musique il y a 30 ans. Et même maintenant, beaucoup de gens découvrent la musique électronique par le Fuse. C'est l'un des premiers endroits qui vient à l'esprit quand on veut faire la fête et voir des DJ dans un lieu un peu underground et pas dans une boîte commerciale.
Il y a 30 ans, à l'ouverture, DJ Pierre était déjà là. Résident, il est resté depuis. Il fait partie des murs de ce Fuse que le bourgmestre de Bruxelles a défendu et qualifié de monument lorsqu'il était menacé de fermeture l'année dernière après les plaintes d'un voisin à cause du bruit. Ici, DJ Pierre a tout vu, des premiers balbutiements de la techno bruxelloise jusqu'à sa démocratisation et son intégration dans la vie culturelle nocturne.
Au début, chaque semaine, on se demandait si on allait rouvrir la semaine d'après. Financièrement, c'était pas viable à long terme si ça n'évoluait pas. Après, ça s'est mis en place, notamment après l'avenue de Laurent Garnier, qui était un peu le démarrage du club, début 95 ou quelque chose comme ça. Après, bon, petit à petit, ça fait connaître le club. On a ici beaucoup d'autres gens qui sont passés par le club, comme Björk ou Aphex Twin ou Daft Punk. Au tout début, en fait, c'était pas encore vraiment le phénomène que c'est maintenant. Ils n'étaient pas encore masqués, mais c'était clair que c'était quelque chose qui allait cartonner dans le futur. Quoi.
Lorsque ce lieu historique, au cœur du centre-ville et du quartier des Marolles, avait failli fermer, cela avait été un électrochoc pour le monde de la nuit bruxellois, qui s'est alors senti menacé de disparition. Et les pouvoirs publics ont réagi, avec en premier lieu l'inscription du clubbing au patrimoine immatériel de la région bruxelloise. Hans Persson, c'est la secrétaire d'État à l'urbanisme et au patrimoine au gouvernement de la région Bruxelles-Capitale.
Le Fuse fait partie de cette vie des quartiers depuis 30 ans. Et c'est vrai qu'il y a une gentrification dans beaucoup de quartiers, des nouveaux habitants qui se demandent pourquoi cette institution est là, est-ce qu'il ne faut pas mieux qu'ils partent, est-ce que c'est le meilleur endroit d'avoir un club de nuit, est-ce qu'il ne faut pas aller ailleurs. La vie nocturne, c'est aussi une scène qui est importante, qui fait partie de notre identité, notre vie culturelle. Que ça soit pas uniquement l'opéra ou les salles de concert, c'est aussi cette vie nocturne. On est connu pour ça, pour cette vie nocturne, et ça fait aussi que Bruxelles est une ville attractive, créative et jeune, où se passent des choses. Donc c'est nous, cette ville. Et donc je pense qu'on doit continuer à trouver des équilibres. Le principe des Agents of Change a été approuvé par le gouvernement en première lecture. L'idée du Agent of Change, c'est que celui qui est là en premier compte. C'est un peu ça le principe. S'il y a une boîte de nuit qui est là depuis toujours, depuis plusieurs années, et il y a des logements qui se créent autour, c'est aux logements de s'isoler et de faire en sorte qu'ils n'ont pas de nuisance de ce club.
Après avoir craint un déménagement hors du centre-ville, le Fuse a donc a priori encore de belles nuits devant lui.
À la réalisation d'Accent d'Europe, Françoise Grelot, vous pouvez retrouver l'émission et toute l'actualité européenne sur l'appli Pure Radio et sur les réseaux sociaux de RFI. À bientôt.